Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast qui fait un peu tout n'importe comment sur Angoulême. J'aurais pu tricher et vous mentir, dire que j'étais encore sur place, mais non, nous sommes lundi, je suis rentré, les choses sont difficiles, mais je vais essayer de vous faire un compte rendu entre les différentes interventions que j'ai enregistrées hier, de ce qui s'est passé. Donc là, vous venez d'entendre un petit aperçu du son de ce qui se passe à l'entrée. Le dimanche était un peu plus calme que le samedi, les gens qui courent dans tous les sens avec leurs sacs, etc., c'est pas aussi impressionnant que l'image, mais moi, ça m'a vraiment laissé sur le cul. Et puis, juste après avoir assisté à cette superbe entrée, d'ailleurs, merci au vigile de m'avoir laissé entrer 2 minutes avant pour que je puisse essayer de prendre ce son, je me suis un petit peu baladé dans la grande bulle, le monde des bulles, pour voir ce qui traînait. Et là, je suis tombé sur un éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle BD Musique, et je suis allé interviewer un de ses auteurs. Je suis avec José Correa qui est en train de me dessiner un magnifique album BD Blues sur Red Charles. BD Musique, c'est une collection que j'avais un peu suivie déjà avec les BD Jazz quand ils avaient démarré, que j'avais trouvé très sympathique, qui allie deux albums qui montrent plusieurs facettes de l'artiste et une courte bande dessinée qui montre une anecdote sur la vie de l'artiste. Bonjour José.
Bonjour.
Donc là, vous avez fait 7 titres chez BD Musique. À chaque fois, vous illustrez une anecdote ou un moment de la vie de l'artiste. Comment est-ce qu'on choisit l'anecdote, le passage qu'on va vouloir mettre en avant ?
Ben moi, c'est pas tout à fait mon cas. Alors dans cette collection, il y a un peu tous les cas de figure. Il y a ceux qui font justement, comme vous venez de dire, une anecdote. Moi, je préfère parler de la vie et l'œuvre. Je démarre à sa naissance et je vais jusqu'au bout, quoi. Évidemment, en 22 pages, hein, parce qu'il faut résumer. Mais j'aime bien, on s'adresse à un public qui n'est pas toujours au courant, qui ne connaît pas forcément les artistes, même s'il a entendu quelques titres. Et j'aime bien ce côté-là. D'abord, pour moi, lorsque je travaille sur un artiste, même si je le connais bien, je lis ou je relis tout ce qui a été écrit sur lui, je regarde des vidéos, enfin, j'essaie de m'imprégner un maximum de cet artiste. J'écoute, bien sûr, pendant tout le temps où je travaille, j'écoute sa musique et je raconte, évidemment, quelques petites anecdotes. J'illustre très peu leurs chansons ou leurs morceaux. Ça, je le fais très peu. Mais j'aime bien que les gens découvrent l'artiste depuis sa naissance, ses influences, ses parents, le pays où il a vécu. Enfin, j'aime bien ça. Ça me semble important.
Vous avez un style qui est très très illustration. On est plus vraiment dans la BD, c'est-à-dire pourquoi ? Enfin, c'est votre style. Vous avez choisi ce style d'illustration là pour cette collection parce que ça vous semblait bien mettre en avant les artistes.
Alors au départ, même si on me voit dans tous les salons BD de France et l'étranger, moi je n'ai jamais fait de BD. Et justement quand cette collection a démarré, que Bruno, l'éditeur, m'a demandé de travailler pour lui, j'étais à la fois heureux et à la fois je me suis dit tiens, c'est pas mon univers, quoi, parce que tous les mecs de l'époque, depuis ça a changé, mais tous ceux de l'époque étaient des spécialistes de la BD, qu'ils soient jeunes ou plus confirmés. Et je me suis dit j'ai rien à faire là-dedans, quoi. Et lorsque Bruno m'a demandé, j'ai dit non, mais moi je fais pas de BD. Il m'a dit, mais t'as pas à faire de BD, tu fais ce que t'as envie de faire, reste dans ton style. Avant de faire ça, j'ai illustré tellement de livres, mais plutôt côté littérature, quoi. J'ai illustré, bien sûr, Rimbaud, Céline, Camus, enfin j'ai illustré un tas d'auteurs. Et tout d'un coup, bon, ben, je me faufile comme ça dans une collection qui s'appelle BD. Mais non, personne ne m'a forcé à faire des cases et des bulles, quoi. Je suis resté un peu dans ce qu'on appelle le roman graphique. Je suis resté l'illustrateur que je suis, quoi. Et cette liberté-là me plaît. Je continue à travailler dans ce style-là, parce que c'est mon style. Je me sens incapable de faire une BD, quoi.
Vous avez une totale liberté sur ce que vous allez mettre dans ces 22 pages dans l'album ?
Ah, total. J'ai rarement rencontré ça chez les éditeurs. Bruno me demande pas au départ de lui montrer des planches. Non, j'arrive avec les 22 planches finies, texte et dessin, il regarde et il n'y a jamais eu aucune censure sur aucune page. Tiens, là, t'as été trop loin, là, j'aurais pas fait ça. Non, vraiment, jamais. Alors, il n'y a que pour la couverture où là, on en discute. Je lui fais plusieurs propositions et au dernier moment, c'est lui qui choisit, mais déjà dans les propositions que je lui ai faites, il y a celles que j'ai choisies moi. Donc, je me dis, après tout, celle qu'il va choisir me conviendra parfaitement. Parce que, alors, pour le Ray Charles, ça a été un peu plus long. J'ai dû en faire 5 ou 6. Et lorsque la dernière, enfin, celle qui me semblait être la bonne, a été acceptée par l'éditeur, il m'a dit, ouais, c'est une bonne couve, on y va. Et j'ai l'impression que c'était presque imprimé au moment où j'ai dit, non, arrête tout, parce que je crois que j'ai fait mieux. Encore une qui me plaît davantage. Et je lui ai proposé celle-là, il m'a dit, t'as raison. Donc, on a effacer l'autre et on a gardé la toute dernière. Mais sinon, oui, il n'y a que la couverture où on en discute vraiment, quoi, parce que c'est important une couve, quoi. C'est vraiment. Et lui, il a souvent l'œil plus, j'allais dire, commercial que moi. Et je me souviens que pour Ferré, j'avais fait plusieurs propositions ici, dont une que j'aimais beaucoup, mais qui était à l'arrivée très dure, quoi. Et il m'a dit, on ne peut pas mettre ça, on va prendre plutôt celle-là qui me semble plus grand public. Mais voilà, c'est sa seule intervention, c'est au niveau de la couve.
Le format très long et assez particulier par rapport à du livre, c'est une contrainte importante. Ça demande de revoir ses habitudes pour essayer de rentrer dans le format et de faire quelque chose qui soit esthétique, joli.
Ben, ça pourrait au départ faire penser à une contrainte, mais pour moi ça ne l'est pas parce que j'ai une technique qui me convient bien, c'est que moi je fais des carrés. C'est-à-dire des doubles pages. Donc j'ai éliminé le côté contrainte en hauteur, qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que j'aime aussi bien travailler en hauteur. Mais moi je fais un carré. D'abord parce qu'il y a une plus grande cohérence au niveau de la couleur. Sur les deux pages, il y a quelque chose qui tient, quoi. Et je ne suis pas obligé de faire une page et dire à celle d'à côté, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Au niveau couleur, au niveau ambiance. Je fais un grand carré qu'on coupe en deux, quoi. Et donc non, c'est vraiment pas une contrainte, au contraire, c'est. C'est assez jouissif. D'autant plus que moi, je travaille pas au format du livre. Hein. Je travaille très grand. Donc, la main se laisse aller, quoi. L'œil se balade partout. Non, c'est vraiment un bonheur de faire ces grands carrés.
Vous êtes sur plein de festivals de BD avec donc BD Musique. Vous lisez un peu de BD. Vous avez lu récemment quelque chose qui vous a marqué ?
Ben moi, je suis un fan de Tardi depuis toujours. Je crois que j'ai lu tout ce qu'il a fait. Et son dernier adapté de Manchette, qui était au départ un auteur de polar que j'adorais. Donc, chaque fois que Tardi sort un album adapté d'après un roman de Manchette, j'attends ça avec impatience. D'autant plus que j'ai lu pratiquement tout Manchette. Donc, je crois que c'est un des derniers albums que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Sinon, il y a l'Arsenet. Alors, l'Arsenet, il me met sur le cul, quoi. À chaque fois. C'est impressionnant le talent de cet homme, que ce soit graphique ou il a un mental incroyable, qu'on se demande où il va chercher tout ça. Et ces dernières années, je dois dire que, bon, Tardi, c'est un classique, quoi. Ça fait 40 ans que je le connais. Donc, c'est une autre affaire. Mais parmi les nouveaux, quoi, pour moi, l'Arsenet est vraiment le plus grand, quoi. J'ai jamais rencontré ce type-là, je sais même pas la tête qu'il a. D'après ses petits graphiques, j'ai l'impression qu'il a une casquette et une petite barbichette, là. Mais je l'ai jamais rencontré. Mais il est impressionnant, ce garçon.
D'accord, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Vite, on court vers la bulle Mangazi pour voir Fabrice Sapolsky, parce que je lui ai dit que je passerais. Je sais qu'il a son franc-parler et que si je vais pas le voir, je sens que je vais me faire engueuler. Et il aura bien raison. Vite, courons. Et puis, c'est un espace très très sympa d'ailleurs, cette bulle Mangazi. Pas mal de trucs en manga. Je suis tombé sur une conférence qui parlait de l'état de la bande dessinée à Taïwan, qui était assez intéressante. On avait deux auteurs, une auteure taïwanaise et une auteure qui avait vécu à Taïwan, qui nous racontait leurs mésaventures et les difficultés qu'il y a dans ce pays. C'est franchement, ça a donné très très envie d'en apprendre un peu plus. Mais là, j'ai rendez-vous. Je suis avec Fabrice Sapolsky, qu'on avait déjà rencontré. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour. Bonjour le One Eye Club.
Oh, c'est bien, tu le prononces pas mal. Les gens ont beaucoup de mal avec le nom de ce podcast horrible.
Tu veux que je te le fasse avec l'accent ?
Hello One Eye Club.
Très classe. Je voulais revenir, donc la dernière fois qu'on s'est vu, les bouquins n'étaient pas sortis. Tu étais sur un stand, désolé, à montrer ton iPad pour dire « Regardez, ça va être trop bien ». Ça y est, les bouquins sont sortis. C'est trouvable en librairie partout dans le monde, en France. Alors, est-ce que tu es content de ce lancement ? Est-ce que ça s'est passé comme tu l'attendais ?
Pas du tout. Mais je pense que, en fait, toute personne qui dit, alors voilà, je lance une nouvelle maison d'édition, enfin, on lance, parce que je ne suis pas tout seul, bien sûr, on lance une nouvelle maison d'édition, tout s'est passé à merveille, il n'y a eu aucun problème, il n'y a pas eu d'accident, etc., est un menteur. Voilà. Et clairement, on a eu tous les problèmes possibles et imaginables. Tout ce qui pouvait arriver de travers, s'est passé. Donc voilà, on n'a pas eu le papier qu'on voulait. On a eu des fichiers qui sont partis à l'imprimerie mal corrigés. On a eu des retards. On a eu des soucis avec l'imprimeur de Singapour qui nous imprimait Mohamed Ali, Superman contre Mohamed Ali, qui nous a livré en deux fois parce qu'il n'arrivait pas à tenir le délai. Enfin voilà, on a eu plein de choses. On a eu un autre imprimeur qui nous a imprimé les crédits d'un bouquin à la place de celui d'un autre. Et ensuite, pour corriger le truc, on a fait faire des stickers et la personne cherchait des stickers au lieu de couvrir les mauvais copyrights. Les a collés ailleurs, donc du coup c'est voilà, il y a les mauvais copyrights et en plus c'est collé à un endroit totalement inesthétique. Bref, on a eu beaucoup de galères. Voilà.
Là, je vois que vous ressortez Morning Glories dans un nouveau format. Vous avez revu la politique au niveau des formats. Pourquoi c'est le format tel que tu l'attendais ? Je sais que tu avais beaucoup d'espérance dans ce format-là. Ça a pas reçu l'accueil que tu attendais ?
C'est plus compliqué que ça en fait. C'est-à-dire que bon, il y a deux questions dans ta question. Bon. Concernant Morning Glory Academy, il se trouve que quand le volume de Morning Glory Academy, le premier, est sorti, il a été mal reçu, et pour cause, parce que, comme je le disais il y a un instant, les mauvais fichiers ont été envoyés à l'imprimerie, du fait que, quand le bouquin est parti, on était en plein cœur de l'été, j'étais à San Diego, et la femme de Moïse Kissous a accouché cette semaine-là, donc d'un petit garçon, donc... il n'était pas vraiment dans son état normal, je n'étais pas présent, et les personnes qui sont restées à Paris n'avaient pas forcément l'attention que nous on avait pour pouvoir envoyer les bons fichiers. Donc les mauvais fichiers sont partis à l'imprimerie. En prime, on n'a pas eu le papier qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait un papier épais de 135 grammes, c'est celui qu'on a retrouvé d'ailleurs après, et l'imprimeur n'a pas compris qu'on voulait ce papier-là, donc voilà, il nous a collé un papier de 80, ce qui fait que le bouquin a l'air d'une crêpe alors qu'il fait 72 pages, et c'est extrêmement rageant. Donc... Tu additionnes l'un et l'autre, on a des libraires qui ont dit on refuse de le vendre, on a des fans qui nous ont torpillés, à raison, et là tu as deux solutions, soit tu te drapes dans ton honneur et tu dis comment non ça ne se passera pas comme ça, ou tu dis ok, il y a eu des conneries, il y a eu des erreurs de fait, on remet tout à plat et on fait quelque chose de neuf. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on est parti du principe qu'il y avait trop peu de gens qui avaient vu ce volume de Morning Glories et on est très attaché à cette série qu'on aime vraiment beaucoup. Donc, on ressort une édition augmentée de Morning Glory Academy. Et cette fois, on va essayer de faire taire tous les arguments. Traduction revue, correction revue, lettrage revue, pagination revue. On passe de 72 pages à 180 pages pour 14,95. C'est-à-dire, on est aujourd'hui la bande dessinée la moins chère du marché.
Le fait de devoir refaire tout ça, c'est pas un coup difficile pour une jeune structure ?
C'est un coup très dur, économiquement, c'est un coup très dur. Au moral, c'est un coup très dur aussi. Mais bon, je veux dire, voilà, on a besoin de montrer que Atlantic BD, c'est pas une maison d'édition qui est là pour jouer Mickey et faire la fanfare. Non, on est là pour compter, pour rester et avec des ambitions. Donc, on va montrer en 2012 que, bon, 2011, c'était le hors-d'œuvre. 2012, c'est le plat de résistance. Allons-y.
Ok. Il y a eu très peu de communication dans le magazine de bande dessinée américaine Comic Box. Je sais que ça a été fait parce que tu voulais pas qu'il y ait de mauvais procès, de complaisance vis-à-vis de ton travail. Est-ce que tu crois pas que malheureusement ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ils en ont pas beaucoup parlé, bah parce que alors qu'ils en auraient parlé si ça n'avait pas été toi.
Alors c'est une excellente question, mais c'est pas à moi qu'il faut la poser. C'est-à-dire que clairement, et à partir du moment où j'ai décidé de quitter Comic Box, de lâcher le poste de rédacteur en chef, il était clair que j'allais plus intervenir dans les affaires du magazine. C'est ce qui a été le cas. Donc aujourd'hui, cette question-là, elle est excellente, elle est très pertinente, mais c'est à Xavier Fournier qu'il faut que tu la poses, pas à moi. Donc effectivement, il y a des choses que je déplore, j'ai pu le lui dire, mais il reste souverain et j'ai ni fait pression sur lui, ni exiger quoi que ce soit, et il n'y a pas de raison, voilà. Il le fait en son âme et conscience, et donc voilà.
Des nouveaux projets, les nouvelles des prochaines sorties ?
Oui. Alors, bon, déjà, la remise à plat totale de l'offre Atlantique BD à partir du mois de mars, à savoir, nouveau logo, ça, les gens peuvent le voir depuis un petit mois sur le site, également, des nouvelles paginations, des nouveaux prix, puisque jusqu'à aujourd'hui, on avait une politique de prix unique à 12,95€, quelle que soit la pagination. Aujourd'hui, on va créer des différences, à savoir qu'on va attaquer le 64 pages à 10,95€ et on va toper ça avec le 188 pages à 14,95€. Donc clairement, on fait un très gros effort en termes de prix. On se place au niveau, voire un petit peu en dessous de Panini, qui était déjà une référence en termes de rapport entre le nombre de pages et le prix. Et tout ça en gardant nos valeurs de production, c'est-à-dire des couvertures cartonnées. Il n'y aura jamais de soupe chez nous, hein, il n'y aura que du cartonné. Couvertures cartonnées, vernis sélectif, du beau papier de 135 grammes. Enfin voilà, on a trouvé une méthode pour qu'économiquement ça continue d'avoir un sens et qu'on puisse mettre tout l'argent dans les livres parce que c'est ce que les gens veulent. Voilà, les gens ne veulent pas des maisons d'édition qui vont s'engraisser sur leur dos. Non, les gens veulent que tout l'argent soit dans ce qu'ils lisent. Donc, et c'est le cas, voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors en termes éditorial, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? On a une nouvelle série qui arrive en mars déjà, qui s'appelle Near Death, Mort Imminente, qui est une série initialement publiée aux États-Unis chez Image Comics. Et avec là encore un tour de force, c'est-à-dire que le trade paperback, le recueil américain avec les 5 premiers épisodes en couverture souple, sort fin février aux États-Unis et chez nous le 9 mars. En hardcover, donc en couverture cartonnée. Et donc c'est un tour de force pour nous de le proposer avec si peu de décalage par rapport à l'édition américaine, ce qui va le rendre évidemment irrésistible, et tout ça pour un prix défiant toute concurrence, puisque on va être à 116 pages pour 12,95€, donc voilà.
Un gros coup, genre le Superman Mohamed Ali en préparation à venir, parce que ça franchement c'était un gros coup.
Alors, on a plusieurs gros coups en préparation en fait. Si tu parles de Superman Mohamed Ali en tant qu'Atlantique Prestige, oui, il y a un Atlantique Prestige qui est prévu pour la fin d'année, donc je ne peux pas encore te révéler le nom, il est un peu tôt. Mais surtout, on a un beaucoup plus gros coup, qui est une série, une création originale, mais basée sur une licence, une série internationale, avec un casting international de créateurs, et quelque chose dont on a eu l'idée, qu'on pilote et qu'on coproduit avec un éditeur américain.
Là, tu donnes très envie d'en apprendre plus, mais je sens que tu ne vas pas pouvoir le faire.
Non. En fait, idéalement, on aurait aimé que l'annonce intervienne à Angoulême, mais malheureusement, l'ayant droit n'a pas validé le communiqué de presse à temps. Donc, l'annonce n'a pas pu se faire ici, mais dès qu'on pourra, n'aie crainte, tout le monde en entendra parler, et je pense que ça, beaucoup de gens vont réagir à ce projet.
Ok, merci beaucoup Fabrice, c'était un plaisir de te revoir.
Et c'est un plaisir d'être avec le Why Night Club.
Une dernière chose, ta dernière découverte en BD?
Ah, tu me l'as fait à chaque fois cette question-là, hein. Oh la vache. Ma dernière découverte en BD, c'est Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples. C'est hors norme. C'est pas énorme, c'est hors norme. Voilà, ça ne ressemble à rien de connu.
Il va falloir que je suis fan de Vaughan, donc il va falloir que je me jette dessus. Voilà. Retour à la bulle New York, la bulle indépendante. Et c'est un peu mon objectif de la journée d'hier. Et là, je tombe sur Les Indociles, une bande dessinée qu'on m'a conseillée. Je suis persuadé que c'est Alias sur son blog. Non, en fait, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet amalgame, peut-être parce que les auteurs et Alias sont suisses, mais en tout cas, c'est une bande dessinée qui a l'air très sympathique. On va poser quelques questions aux auteurs. Je suis avec Camille Rebetez, Rebeté, on dit comment ?
On dit Rebeté, Camille Rebeté.
Voilà, Camille Rebeté. Et Pitch, comment ? Super. Voilà, ça doit être rigolo, on doit pouvoir faire plein de blagues avec son nom de famille.
Il en a jamais entendu des blagues comme ça.
Je vois pas quelle blague déjà, je vois pas quelle blague on peut faire avec mon nom, puisque c'est un nom tout à fait classique en Suisse.
Donc, vous avez publié Les Indociles aux Enfants Rouges. Je ne connais pas du tout, je ne l'ai pas encore lu. Donc, pendant que Peach est en train de dessiner, Camille, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi ça parle ?
Alors, Les Indociles, c'est une saga d'abord. Hein. C'est une suite en 6 épisodes. Celui-ci, c'est le premier. Ça se déroule à la fin des années 60 avec une forme de reflux des idéaux de 68ard qui arrive lentement à rejoindre une partie de pays assez rurale qui se trouve être située dans le Jura suisse et qui a donné qui a cristallisé des actions assez, assez particulières, une lutte antimilitariste très forte, un esprit que j'ai appelé dans cette bande dessinée un esprit indocile finalement. Et puis on a trois personnages qui ont 17 ans à cette période-là. Dans le premier tome, ils découvrent par exemple la sexualité, la libération des mœurs, des choses comme ça. Et on va les retrouver au cours des générations jusqu'en 2015, quand on aura terminé le sixième tome, tous les 10 ans. Avec aussi un regard différent chaque décennie sur l'évolution de ces idées-là.
D'accord. Vous êtes publié chez Les Enfants Rouges. Alors, je ne connais pas l'éditeur, en fait. C'est une première BD pour toi ?
Alors, moi, je suis dans l'écriture théâtrale. Là, c'est ma première incursion dans le scénario de bande dessinée. J'avoue que je m'amuse beaucoup. C'est beaucoup plus libre que le théâtre, où il y a beaucoup de règles et qu'il y a une écriture difficile. C'est aussi un nouveau monde que je découvre avec des nouvelles personnes. C'est très agréable.
C'est justement, entre l'écriture théâtrale et l'écriture de bande dessinée, c'est quand même super différent. Tu as dû t'adapter au langage de la BD. J'imagine que tu devais lire de la BD pour t'aider derrière. Mais quelles ont été les adaptations que tu as dû faire justement pour suivre le langage de la BD ?
La différence, c'est que, je dirais, au niveau du théâtre, il y a le plateau. Il y a une réalité à laquelle il faut toujours faire référence. On est toujours... un personnage ne peut pas tout à coup s'envoler. Ou alors, ça demande des moyens techniques énormes. Ou des trouvailles théâtrales d'un metteur en scène particulièrement doué et inventif. Il y a aussi un conditionnement par rapport au financement du nombre d'acteurs qui peuvent jouer. Donc, il faut réfléchir à énormément de règles comme celle-ci. Et puis, pour passer à la bande dessinée, en fait, ça s'est fait de manière assez intuitive. Mais je pense que la translation que j'ai fait le déplacement entre l'écriture théâtrale et l'écriture scénaristique s'est fait beaucoup à travers les excellentes séries télévisées américaines, les suites, où là, à chaque fois que je regarde des choses comme ça, j'analyse les structures scénaristiques qui se retrouvent après dans une écriture de bande dessinée.
Ok. C'est quoi ton dernier coup de cœur en BD ?
Mon dernier coup de cœur en BD, c'est quelque chose que j'ai pas encore lu, mais que j'ai acheté dans un stand en face, dont je me souviens plus ça et là. Voilà. C'est une Tokyo Heat qui dessine l'histoire de deux sœurs siamoises. Et ça a l'air complètement barge. Je me souviens même plus du titre, mais ça va être mon prochain coup de cœur. Sinon, j'en ai pas en tête maintenant.
On va passer à Peach. Tu utilises un style très simpliste, très simple, alors qu'apparemment c'est une histoire qui est vraiment inscrite dans la réalité. Pourquoi est-ce que tu... Enfin, ça doit être parce que c'est ton style, mais est-ce que tu penses que d'avoir un style simpliste permet de mieux coller à l'histoire ?
Alors oui, tout d'abord c'est mon style, c'est comme ça que je dessine. Ensuite, il me semble que ça correspondait assez bien à l'histoire. Ça permet d'avoir aussi un petit détachement par rapport à la réalité. Je voulais pas faire un dessin réaliste, ça m'intéresse pas vraiment. Et ça permet d'avoir une espèce de petite distance par rapport à la réalité, peut-être. Oui.
Ok, toi, ton dernier coup de cœur en BD, c'est quoi ?
C'est Portugal de Pedrosa. Ça, alors magnifique. Je l'ai lu couché par terre. Et je suis très content parce que je dois encore lire quelques pages et je me réjouis de les lire et je me réjouis de rentrer à la maison pour les lire.
Ok, bah merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci. Et vive la Suisse libre !
Ouais ! Cette journée de dimanche a été aussi l'occasion de faire un petit hors-série, comme on a l'habitude de le faire dans le podcast. C'est-à-dire que j'ai une collègue qui est d'origine angoumoisine et qui m'a donc dit « il faut absolument que tu vois une cave charentaise ». Alors j'ai un peu senti le plan foiré au début parce que il fallait que je m'éloigne un peu du centre-ville et que les bus qui s'éloignent du centre-ville le dimanche, il n'y en a qu'un toutes les heures, même pendant le festival. Donc j'ai patienté dans le froid jusqu'à avoir un bus, aidé par une charmante locale qui m'a guidé, pour enfin arriver dans un endroit. Et là j'ai découvert une cave charentaise, quelque chose d'assez impressionnant. C'est l'endroit où, en gros, ils font leur pinot, leur pâté, leur grillon, leur boudin. Ils m'ont fait un peu tout goûter et je me suis retrouvé invité à manger un repas léger, apparemment, et sur le pouce parce qu'ils ne m'avaient pas du tout prévu. Repas très très difficile pour un truc léger. J'avoue que le petit Côte du Rhône qui l'accompagnait était plutôt pas mal, mais après la charcuterie de l'entrée, après le bouillon, après l'omelette au cèpe, la fondue bourguignonne accompagnée des frites, c'était beaucoup. En plus, j'avais quand même envie de retourner un peu sur le festival parce que le repas de 3 heures, c'était pas vraiment mon plan. Ce que j'ai réussi à faire, en tout cas, merci à Lucien et à ses amis, à sa famille de m'avoir accompagné. Merci à Tenny de m'avoir proposé cette offre-là. C'était vraiment très très sympa. J'ai passé un très bon moment. Et puis je suis retourné vite pour le rendez-vous avec Brujas et Toulouate qui ont fait Bloc 109 parce que je voulais pas les rater deux fois. Je suis avec Vincent Brujas et Ronan Toulouate, les auteurs de Bloc 109, après moult péripéties pour réussir à se voir grâce à une erreur terrible que j'ai faite sur le lieu de rendez-vous la première fois. Bonjour.
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 Donc vous êtes les auteurs de Bloc 109. Vous avez créé d'abord un premier tome, un gros tome qui me pose les bases d'un univers que vous avez ensuite décliné dans différents albums dans un format plus européen. D'où est venue l'idée justement de se lancer dans une BD univers ?
D'abord, c'était l'idée de Bloc 109, le tome. Alors, c'est pour ça qu'on ne compare, qu'on ne met jamais Bloc 109, le tome, le premier tome. On ne dit jamais premier tome, d'ailleurs, on dit le Bloc 109. Et après, on nomme la série. Et la série, pour nous, Bloc 109 n'en fait pas partie. C'est vraiment, on a eu cette idée d'histoire. Zitek, toutes ces choses-là, tout le virus, qui devait se trouver dans un monde extrêmement sombre. Et là, on a eu l'idée d'une uchronie. On a développé cette uchronie, on a raconté cette histoire, et une fois qu'on a eu fini, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et ce qu'on avait envie de faire, c'était développer en fait l'univers qu'on avait déjà créé, et qu'on s'est dit, c'est dommage de l'utiliser pour un seul album. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire des albums, mais qui étaient complètement indépendants, avec lesquels on aurait pu soit commencer l'histoire, soit la lire après. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est une idée qui naît complètement après. C'est vraiment deux idées différentes, limite. Et d'où aussi l'idée de la différencier avec des formats complètement différents, pour ne pas tromper les gens. Bon, alors bien sûr, parfois on les a trompés avec ça, sans le vouloir. Mais le but, c'était vraiment de différencier les deux types d'histoires. Voilà. Et pas qu'il y ait de comparaison avec Bloc 109 et les autres. Bon, bien sûr, on l'a toujours fait, parce que les lecteurs l'ont toujours fait. Mais c'était le but, voilà, à la base.
Tu dis « on », vous avez vraiment développé l'univers et le scénario tous les deux ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment un bébé à deux. En fait, c'est un peu une partie de ping-pong. C'est-à-dire que Vincent a créé l'histoire, avait la base, a posé les bases de l'univers uchronique. C'est lui qui a eu l'idée de l'univers uchronique. Moi, j'ai apporté tout l'aspect graphique, tout l'aspect décor, l'aspect machine, l'aspect design, l'aspect des personnages, l'ambiance, couleur. Et à chaque tome... Vincent va donner le point de départ. Moi, c'est un peu une course de relais. Je vais me donner le relais. Moi, je vais le prendre et je vais en profiter pour y apporter aussi une autre partie. Donc, encore une fois, l'ambiance, des idées nouvelles, le design, des choses pour rester à chaque fois dans cette thématique de Bloc 109, c'est-à-dire certes l'uchronie, mais aussi un petit truc en plus qui fait notre partie. Comme dans Bloc 109, on avait les mechas, on avait les Sibériens, dans Étoile Rouge, on avait les avions à réaction qui n'ont jamais existé, dans Opération Seuil de Plomb, on a les sans-visages, etc. etc., etc. Voilà.
Donc c'est vraiment du coup, mais j'ai souvent énormément d'idées et Vincent va dire non, bah là par contre c'est peut-être un peu trop, on la garde pour plus tard et ça et ça. Donc c'est vraiment un échange entre nous deux. Vincent peut aussi avoir des idées, petit tiens, on pourrait développer graphiquement, ça serait magnifique un truc comme ça. Et c'est pareil, je bosse dessus. Donc c'est vraiment à deux. Ouais.
Oui, donc les mécas, en gros, c'est une idée de Roland que tu as essayé d'intégrer dans ton univers.
Alors, je l'ai intégré dans mon univers, c'était pas prévu du tout au départ, mais pas du tout une idée de Roland, en fait. C'est une envie commune, parce qu'on est allé voir Iron Man au cinéma. On est sorti du cinéma et justement, j'avais 10 pages, j'avais pas trop quoi en faire, et j'ai fait, on va faire un méca. On est obligé, faut faire un gros combat avec des avions et un méca. Alors... C'était un peu l'intérêt qu'on avait dans Blocks en 9 d'avoir pas mal de place et d'avancer un peu au jour le jour, puisque c'était un peu notre premier album et on pensait aussi que ça pouvait être le dernier. Donc on s'était dit, tout ce qu'on veut faire, on le fait dedans, on le met dedans. C'est pour ça que c'est un peu une espèce de fourre-tout, un peu de plein de choses, de passion, de choses comme ça, qui débordent d'énergie. Mais alors les mécas, c'est ça. Attention, les Sibériens, c'est aussi à cause d'un film qu'on a vu, hein. C'est à cause de Wolverine qui nous a vraiment profondément déçus. Et on a dit, nous, on va montrer ce que c'est que la sauvagerie et les griffes, voilà. Et c'est venu un peu de là, voilà.
Il n'y avait pas de limite au nombre de pages. Vous aviez déjà signé quand vous avez démarré, il n'y avait pas de limite au nombre de pages. Vous saviez à peu près à quoi vous en tenir, vous avez pu en rajouter en cours de route.
On savait que c'était 200 pages, on leur avait fixé 200 pages. L'idée, c'était toujours aussi, est-ce que ça serait deux tomes ou un? Mais très vite, on s'est rendu compte que vu l'histoire, et vu la première partie qui est un peu... qu'on pourrait croire pro-nazi limite, on s'est dit non, c'est vraiment une histoire qu'il faut avoir en un tout, en un bloc, pour un jeu de mots, et donc on a très vite renoncé à deux parties pour en faire un seul. Et on savait qu'on avait 200 pages, Akilos nous disait bah ok, on avait signé pour 200 pages que nous on avait dit ce chiffre, et après ils avaient dit si vous avez plus, bah on avait plus, hein, point. C'est cool, bah oui, c'est surtout qu'on était payé au forfait, mais donc c'est vrai que pour eux c'est pas trop difficile, mais c'était surtout pour nous, c'était vraiment nous laisser eux, leur objectif c'est on laisse la latitude aux auteurs de faire ce qu'ils veulent, et après ça nous le vend.
Pour eux, l'important c'est de faire le bouquin qu'ils veulent. Donc nous, quelque part, voilà, on a eu vraiment la carte blanche de faire comme on voulait. Après, le seul impératif qu'on avait, c'était l'impératif technique, c'est-à-dire qu'un bouquin doit faire un multiple de 8 pour l'impression. Voilà. Mais on s'est fixé sur 200, ça nous semblait raisonnable, et surtout parce que on aurait pu faire plus, bien sûr, mais on aurait prolongé, je pense, encore plus, enfin, retardé la sortie en librairie, et nous, on était des excités, et on voulait quand même un bouquin assez vite en librairie.
On s'est quand même connus en 2003, on a signé le projet en septembre 2008, et il est sorti en janvier 2010. Il faut savoir qu'on n'en pouvait plus. Il fallait qu'il sorte, ce bouquin. Et on s'était mis nous-mêmes une pression. Akilos nous avait dit, vous le faites quand vous le voulez, le bouquin, vous le terminez quand vous le voulez. On n'a pas les moyens, la pression pour vous dire, nous donner une date. Hein. Pas avec ce qu'on vous paye, pas avec ce qu'on vous donne comme engagement. Mais nous, on vous suivra jusqu'au bout. Et c'est nous. On s'était mis vraiment une pression. Si on ne le fait pas en un an et demi, on ne le fera jamais. Donc voilà. Et bah, maintenant, on s'est mis une telle pression que maintenant on s'est mis la pression pour la suite et maintenant c'est petit plein.
L'Uchronie est un genre super difficile dans le sens où il faut déjà connaître la base, bien connaître la base pour savoir quelles vont être les conséquences du changement. C'était une époque historique qui vous intéressait à la base, que vous connaissiez, où il y a eu dû avoir beaucoup de documentation pour essayer d'être cohérent.
Moi, à la base, déjà, je suis historien de formation. Et l'histoire militaire, c'est un peu mon dada depuis que je suis tout petit. Donc la Seconde Guerre mondiale, ça va, j'étais un petit peu à l'aise. Et l'Uchronie, un outil difficile. Oui et non, parce qu'il faut on a un minimum crédible, on va dire, mais en même temps, c'est de la non-histoire. Donc on fait un peu ce qu'on veut aussi, quand même. Donc il faut jongler en fait pour que ça paraisse assez réaliste et en même temps qu'on puisse s'amuser. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce qui dérange certaines personnes, c'est ce qui va pas déranger du tout d'autres. Et en fait, tous les lecteurs n'ont pas le même degré de réalité suivant les... Par exemple, on a certains qui sont extrêmement à cheval sur le fait qu'un avion à réaction russe puisse battre un avion à réaction allemand. Mais par contre, une exo-armure, ça les dérange pas du tout. Donc bon, enfin... c'est relatif. Je sais que j'ai eu des discussions avec certains de mes lecteurs sur certains sujets historiques qui me disaient ça c'est complètement faux, c'est pas possible. D'autres qui me disaient au contraire c'était totalement possible et ils étaient tout à fait d'accord avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de fans d'histoire, hein, et beaucoup de gens qui s'arrochent comme étant des passionnés et donc des spécialistes. Et bon, on n'a jamais vraiment tous le même avis. Donc le but, c'est d'englober un peu, d'être assez réaliste sur un ensemble et de pas trop dépasser. Mais les armures étaient complètement irréelles, mais pourtant ça a plu à tout le monde. Donc comme preuve, quand on fait plaisir, bah, ils vont plus trop se poser de questions. Donc le but, c'est aussi de faire plaisir et puis de voir. Mais après, on a des gens qui me disent que bah, le fait qu'Hitler soit assassiné, mais c'est débile et que l'État se serait totalement écroulé. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette théorie. Comme preuve, il m'a donné, bah oui, quand il s'est suicidé, tout s'est écroulé. Alors, en même temps, quand il s'est suicidé, c'était déjà la fin. Donc bon, comme preuve, c'est un petit peu pourri, j'ai envie de dire. Mais moi, j'estime que la société allemande était tellement noyautée par les nazis qu'ils avaient largement le moyen de continuer. Après, bah, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Chacun lit la BD s'il a envie de la lire.
Au niveau de la narration, sur le bloc 109, il y a toute une première partie où on pose la situation, on montre un peu ce qui se passe, et d'un coup, on commence à avoir un peu plus de la moitié de la BD quand même, des révélations qui arrivent petit à petit. C'était une nécessité de prendre du temps pour poser la situation avant de tout éclater ?
Oui. Oui, oui, c'était une nécessité. Je dis pas que ça a été super bien fait non plus, parce que c'est quand même mon premier bouquin et je pense qu'il y a des trucs qui ont été un peu maladroits. Mais oui, c'était une nécessité de vraiment poser ça calmement. C'est peut-être un peu concentré. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai eu du mal à m'accrocher au début, puis après je suis embarqué et c'est bon, j'ai allé jusqu'à la fin. Mais oui, oui, je pense qu'il fallait poser les choses clairement. Et j'ai envie de dire. C'est un peu venu tout seul en fait, au fur et à mesure. J'avais une idée très claire de ce que je voulais et contrairement à d'autres albums qu'on a fait par la suite, je faisais vraiment page par page. Je livrais 10 pages. Par la suite, j'ai vraiment livré un album entier d'un coup. Et là, le côté 10 pages, bah, j'avançais un peu cas par cas en expliquant bien. Et bon, bah ça s'est fait comme ça. Et,
Ceci dit, l'Uchronie, l'univers posé. Je pense qu'il était quand même nécessaire d'avoir ces 100 pages justement pour, alors déjà un, pour présenter les personnages, présenter l'ambiance et surtout comment tourner vraiment Zitek dans cette première partie comme le méchant, le vrai méchant et justement le retournement de situation dans la deuxième centaine de pages de bloc 109. Un peu.
Si vous ne l'avez pas lu, coupez vos micros tout de suite, n'écoutez plus.
Non mais du coup ce retournement de situation renforce d'autant plus cette première partie.
Oui, c'est l'impression que j'ai eue. D'un point de vue graphique, moi j'ai eu beaucoup de mal aussi au début parce que j'ai eu du mal à différencier les personnages, à savoir qui était qui. Je me suis beaucoup perdu, je sais que ce qui fait que les révélations finales m'ont donné envie de revenir sur la BD, de la relire pour essayer de mettre les choses au clair, mais c'est vrai que sur le premier coup j'étais un peu largué.
Il n'y a pas graphiquement. Je dois avouer que j'ai absolument pas aidé Ronan ni le lecteur en ayant que des grades allemands, des noms allemands. J'appelle les gens soit des fois par leur grade, soit par leur prénom, soit par leur nom, suivant qui leur parle. Ce qui est très réaliste, mais ce qui est absolument pas rendre service au lecteur et à la compréhension de l'histoire. Donc ça, c'est une erreur débutant, on va dire, et j'ai un peu évité de le faire par la suite. Mais après, ça aide pas Ronan.
Après, c'est vrai que pour moi aussi, c'est mon premier bouquin, donc il comporte beaucoup d'erreurs graphiques. Et c'est clair qu'à l'époque, je maîtrisais pas encore le dessin du personnage de BD au sens où le faire de manière très caractéristique. J'avais quelque part une sorte de personnage type qui revenait assez souvent et du coup la plupart de mes personnages se noyaient un petit peu dans les mêmes traits de caractère. Ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup bossé parce que c'est la principale critique que en tout cas sur mon travail j'ai reçu.
Ouais, parce que c'est vrai que je sais plus, il y a un des personnages qu'on reconnaît parce qu'il a une casquette et puis à un moment il enlève et là on est foutu, on est un peu largué.
C'était typique des choses comme ça et sur des livres encore, presque jusqu'à Opération Seuil de Plomb, j'étais obligé justement d'utiliser des artifices comme ça pour que mes personnages, enfin, je ne perde pas le fil du lectorat là-dessus. Je dirais jusqu'à Opération Seuil de Plomb, mais même dans New York 47, certains ont confondu encore deux des personnages de l'équipe sur lesquels je n'ai pas assez travaillé, par exemple. Mais alors ça, c'est, je pense que ça se fait aussi à la longue avec un dessin qui s'affirme de plus en plus. Mais sur la prochaine série sur laquelle on va bosser tous les deux, Chaos Team, Hériteur, Germania avant tout, oui, qui sort en avril. Là par contre, j'ai vraiment fait un travail de fond sur les personnages. Je me suis vraiment pensé sur chaque personnage, je leur ai vraiment donné une caractéristique particulière. J'ai vraiment travaillé, sculpté chaque tête pour que là, il n'y ait pas de soucis. Et là, j'espère enfin que je n'aurai plus cette critique.
Donc l'univers s'est développé à travers plusieurs histoires courtes qui vont chacune aller chercher un pan de l'univers. Comment est-ce que vous avez choisi quel pan de l'univers vous vouliez mettre en avant ?
Déjà, là, la série Bloxton 9, elle a pris source bien avant la sortie du bloc, où c'était 4 mois avant sa sortie, on se disait qu'il faudrait penser à l'après quand même. Et puis là, on se dit, bon, c'est dommage que cet univers soit laissé juste pour un bouquin. Et là, tous les deux, on s'est déchaîné à lancer idée sur idée, que Vincent a noté.
J'ai noté une bonne trentaine d'idées et j'en ai viré une bonne trentaine presque aussi. Tout simplement parce qu'une bonne idée ne fait pas forcément un album. Donc là, en fait, j'ai conservé là où j'avais un bon début et une bonne fin. Et de quoi un peu remplir au milieu quand même. Donc la première idée à être née, en fait, c'était une idée justement d'une chasse à l'homme au Congo. Donc c'était au Père Soleil de Plomb. Et quand on en a parlé à nos éditeurs à Saint-Malo, au Quai des Bulles, on était venu en tant que visiteur pour les voir. Et en fait, on leur a parlé de la série qu'on voulait lancer. Ils étaient tout à fait d'accord. Et puis, sous un peu couvert d'une vanne, il faut faire des trucs d'avion, ça marche bien. J'ai dit, tiens, un truc d'avion. J'avais lu un truc sur Normandie-Yémen, justement. C'était une série de Français libres. Je me suis dit, c'est marrant de savoir ce qu'ils deviennent, mais dans notre univers à nous, puisque ils se retrouvent coincés en Russie, ils n'ont plus de pays. Et ça m'a. Je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas, on va faire. Et cette histoire-là est passée devant. En fait, Étoile Rouge passait devant. Et AOSP a suivi en fait réellement. Et en gros on pense souvent en fait à l'univers. J'entends souvent aussi les lecteurs me dire, ah oui, on sait pas ce qui se passe dans le Pacifique, on sait pas ce qui se passe à tel endroit. Et là je vais me pencher là-dessus, mais bon, je ferai pas une histoire pour permettre aux lecteurs de découvrir ce qui se passe à un endroit précis juste pour ça. En fait, je fais une histoire à partir du moment où j'ai quelque chose qui me touche, moi, une anecdote. J'ai lu dernièrement un magazine sur des plans anglais pour défendre la Méditerranée, ou des plans allemands justement pour l'attaquer. Et ça, j'ai eu des petits trucs comme ça, des anecdotes qui ont été données, et ça m'a donné de la matière pour 2-3 albums, des trucs que je fais, ouh là là, oui, ça c'est vraiment super intéressant. Et je continue à cultiver, puisque la série normalement devrait continuer malgré l'absence de Ronan dès le tome 5, enfin le tome 4 en fait de la série.
Oui, c'est Vincent qui reprend le dessin.
Ça va être beau, ça va être très beau. Dès le tome 5 donc, de la série, qui se passera en Australie, là, pour le coup. Et puis, il y a aussi surtout l'envie, puisque là, je vais le dire justement, ça se passera en Australie dans un camp de prisonniers allemands. Donc là, on va clairement vers le film un peu d'évasion, le film art carcéral. Donc, c'est à chaque fois aussi l'idée de représenter un peu un genre ou un sous-genre. Et donc, avec New York, c'était le survival d'horreur, avec OSP, c'était le récit de guerre. Avec Étoile Rouge, c'était le récit d'aviation. Donc l'idée aussi, c'est à chaque fois d'explorer quelque chose d'un peu neuf qu'on n'a pas encore fait. Parce que j'ai eu pas mal d'idées, mais qui ressemblaient soit à OSP, parce que c'était encore du récit de guerre de base, ou soit à New York avec une mission un peu secrète. Enfin, le but, c'est aussi pas de se répéter, vraiment. De casser un peu, et puis de vraiment montrer un genre un peu différent. Parce que autant Bloxton 9 était un peu multi-genre qui se rencontrait, qui se chevauchait, autant là on veut que chaque album ait un genre bien défini. Ce qui fait que certaines personnes qui adorent certains de nos albums en détestent forcément des fois un parce qu'ils aiment pas du tout le genre. C'est le danger. On a des fois des lecteurs qui nous suivent pas sur tout, mais nous c'est aussi le moyen de pas nous ennuyer et de renouveler un peu le lectorat aussi. Voilà.
Sur Bloxton 9, le traitement graphique est assez particulier, c'est-à-dire que l'ancrage semble un peu noyé sous la couleur. Et en plus, il y a plusieurs histoires dans des ambiances différentes. Déjà, pourquoi est-ce que tu as eu ton style, pourquoi tu as choisi ce style graphique sur le premier Bloxton 9? Et ensuite, est-ce que tu as adapté ton style aux différentes histoires qui ont suivi dans des genres différents?
Alors déjà, effectivement, à la base, le dessin de Bloxton 9 ne comporte pas d'ancrage, c'est un crayonné qui est mis en couleur. un crayonné qui est densifié sous Photoshop et mis en couleur, encore une fois, sous Photoshop. Pourquoi j'ai opté pour cette ligne graphique? C'est parce qu'à la base, le premier jet de Bloc 109, c'était un ancrage avec un dessin que je pensais qu'il plairait aux éditeurs, un dessin qui était un peu copié sur Mignola. Seulement, je ne suis pas à Mignola. Et je ne le suis toujours pas. Et c'était très très mauvais. Et surtout, j'avais quelque part un peu perverti mon style, c'est-à-dire que j'avais commencé à l'oublier. Donc, évidemment, Richard et Emmanuel ont tout de suite dit que ça, c'était pas possible. Donc moi, pendant 6 mois, j'ai fait des recherches. Je me suis dit non, il faut que je revienne à mon trait. Et plusieurs fois, on m'avait dit mais ton ancrage n'est pas bon. Donc je me suis dit bon, mais ton crayonné, par contre, a une certaine force. Donc je me suis dit ok, je vais garder le crayonné et je vais trouver une mise en couleur qui s'adapte à l'ambiance, mais qui en même temps me permettent de produire plutôt vite. Et surtout aussi parce que au niveau couleur, j'étais pas non plus encore au top. Donc et je suis tombé par hasard sur le livre Animal Z d'Anki Bilal. Même si je suis loin d'être un fan d'Anki Bilal, bien au contraire, j'ai quand même été attiré par sa mise en couleur qui était sur un simple fond, un fond uni. Et puis des petites touches comme ça, un travail sur le blanc, enfin sur voilà, les lumières, et puis il y a des petites touches de couleur rouge notamment qui ressortaient vachement. Et là je me suis dit mais ça peut être génial en prenant un fond un peu beige. Ça donnerait un côté poussiéreux, déliquescent, une ambiance relativement sombre qui irait parfaitement, une ambiance sépia qui irait parfaitement à l'univers de Bloc 109. Donc j'ai commencé à faire des essais. En fait, j'ai fait un essai sur une planche, je l'ai envoyé directement à Kilios et là ils ont eu un coup de cœur. Ils ont fait là t'as quelque chose. Même si mon style, mon dessin est encore un peu tendu, ça on le voit beaucoup sur les premières planches de Bloc 109, j'avais pondu le truc. Donc je suis parti sur cette veine et qui fonctionnait à merveille. Et pour la série Bloc 109, là par contre il fallait garder cette veine, donc c'est d'avoir une couleur principale qui donnait l'ambiance, qui donnait le ton, puis des petites toniques comme ça qui attiraient l'œil. Mais il fallait l'adapter pour ce changement de format franco-belge. Donc il fallait rentrer un peu plus dans les codes de la BD franco-belge. Donc là, j'ai commencé à évoluer vers une couleur un peu plus riche, qui d'album en album de la série, d'ailleurs, se densifie. Mais ça va aussi avec le fait que j'apprends aussi de plus en plus à utiliser Photoshop, à utiliser la couleur, justement en observant des travaux de concept artistes qui travaillent pour le jeu vidéo, où les gars ils savent poser une ambiance justement avec peu et en même temps beaucoup de couleurs. C'est complexe à dire, mais voilà, il y a une ambiance unie, des toniques et bref. Et voilà, peu à peu le style a évolué, mais je suis toujours resté avec un crayonné qui est densifié sous Photoshop et une couleur avec une dominante qui donne le ton et des petites toniques généralement rouges, puisque c'est comme ça qu'était né le dans le Bloc 109. Voilà.
Vous avez aussi créé le personnage de Der Ritter que j'ai vu sur le site de Bodoy.com. Qui est une sorte de strip qui montre les aventures d'un super personnage SS, qui a un côté très humoristique, mais parce que, enfin, si on prend un minimum de recul quand même, c'était un exercice vraiment pour le plaisir, pour l'humour.
Alors, pour le coup, oui, c'est vraiment pour le plaisir. Hein. En fait, on a l'idée dès le départ, quand on a l'idée de Ritter Germania, du bouquin qui va sortir en avril, on a l'idée déjà d'un super-héros arien. Alors, c'est pas un SS, c'est un chevalier teutonique, puisque c'est un ordre qu'on a créé, justement, parce qu'on n'avait pas envie forcément de mettre des trucs SS un peu partout, on voulait mettre des codes à nous, pas tomber dans l'excès un peu. Et donc on a créé ce chevalier teutonique, ce héros à rien, qui est une sorte de Captain America mais à la sauce germanique. Et l'idée en fait, c'est que ce héros, il est sur toutes les lèvres, dans toutes les pensées du peuple allemand, dans notre univers en fait. Et quand on voulait que quand les gens lisent le Ritter Germania, ils aient déjà en pensé ce héros, un peu comme ils peuvent penser à Captain America ou Spider-Man ou Batman. Donc l'idée c'était un peu d'en parler un peu déjà dans... Alors pour ça qu'un des personnages s'appelle Der Ritter dans New York, parce qu'il a pris l'identité aussi d'un héros. Les héros américains, ils avaient des strips qui étaient destinés à eux pendant la guerre, où on rigolait de l'ennemi, où on se moquait de l'ennemi. On s'est dit, tiens, ce serait marrant de faire un directeur. C'est venu un peu d'une vanne, un peu. On a commencé à faire le premier strip comme ça pour rigoler. On s'est dit, tiens, on pourrait en faire plusieurs et puis on pourrait les proposer, tiens, pourquoi pas les mettre en bonus ou des choses comme ça. Bodoy, on en a parlé lors d'un interview, on en a parlé avec lui et il a trouvé ça marrant. Il a dit, tiens, moi je le publierai bien. Et on l'a fait comme ça, un peu comme une histoire. Alors on voulait en faire plusieurs, mais là c'est une question de temps. Ronan a un peu de mal. Moi j'en ai d'autres en réserve, mais Ronan a un peu de mal à faire de front. Donc ils seront sûrement peut-être mis en bonus dans le livre writer, je pense. Mais on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est tout comme ça. Pour vraiment donner une espèce de tangibilité au héros. Voilà, il existe, il est tangible. Pensez-y. Voilà, c'est un peu ça.
Au niveau des projets, on sait que les scénaristes sont en général plus rapides que les dessinateurs. Vous avez un projet commun encore. On parlera juste après. Chacun de votre côté, toi, tu vas continuer aussi dans l'univers de Bloc 109 avec un autre dessinateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, pour l'instant, sur le nouveau dessinateur, pas vraiment, puisque c'est encore à la phase des essais, donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas de quoi que ce soit. On attend encore. On est vraiment dans l'attente. Mais en tout cas, le tome 5, comme je le dis, il est bien parti, puisqu'il y a déjà les bases de l'histoire qui sont posées. Je connais la fin, le début, le milieu. Et bon, il n'y a plus qu'à vraiment découper, aller dans le détail. Mais j'ai peut-être une idée aussi de que le tome 6 se passera en Chine. Voilà, un milieu que j'ai encore jamais accès. Le but, c'est d'avoir des histoires dans des milieux très différents de ce que j'ai fait avant. Pour que le passage avec le nouvel dessinateur se fasse plus facilement. Parce que c'est vrai que si le dessinateur se met à se réapproprier des designs que Ronan a fait, il y aura toujours la comparaison qui se fera. Alors que, en Australie, là, il n'y aura rien que Ronan n'a déjà dessiné. Et en Chine, encore moins. Donc le but, c'est peut-être de laisser le temps d'adaptation sur deux albums, et après peut-être de revenir à des choses qui sont plus marquantes dans l'univers de Bloc 109. Voilà. Bien sûr on reste toujours dans cet univers de Bloc 109, mais bon, l'idée est aussi de nous présenter des choses un peu nouvelles et puis que le nouveau dessinateur fasse son trou. Voilà.
Donc Ronan, toi de ton côté, ton prochain projet, c'est encore un projet avec Vincent qui se nomme Chaos Team. Je me retourne pour voir le nom parce que j'avais déjà oublié. J'ai tellement d'infos qui circulent sur ce festival, c'est terrible. Graphiquement, tu m'as montré quelques images. J'ai vu que c'était un peu plus coloré. Tu m'as dit que tu allais peut-être revenir un peu en arrière pour avoir quelque chose autrement. Et en tout cas, les personnages sont vraiment là archétypaux. On a l'impression d'avoir quelque chose de. J'ai vu le gros bourrin. J'ai vu le mec avec sa hache. Enfin, t'as essayé vraiment de te démarquer de ce que t'as fait de Bloc 109 ?
Oui et non. Oui, parce que de toute manière, il faut trancher. Il faut trancher avec Bloc 109. Je fais évoluer mon style, sachant que j'oublie le crayonné et maintenant je fais mes planches entièrement sous Photoshop. Donc ça donne un style, ça donne un rendu un peu différent. C'est plus fluide quelque part. Après, j'ai fait un gros test qui est en fait le teaser qu'on vend ici sur Angoulême qui s'appelle La Vengeance du Béret Vert, qui est dans l'univers de Chaos Team. Et ça sera ce rendu visuel. Ça reste un peu dans la foulée de Bloc 109, au sens où on a encore une fois une dominante de couleurs qui marque l'ambiance et des toniques, ce que j'appelle narratives, qui marque le sujet d'action que l'œil du lecteur va suivre. Parce que je pense que ça fait aussi partie de ma patte. Mais tout ce que j'ai appris en mise en couleur, sont vraiment intégrés là-dedans. Donc voilà. On aura quelque chose d'un peu différent tout en étant relativement pareil. Donc, au niveau des personnages, ça c'est un souhait commun de les archétyper, de les travailler à fond, de les designer à fond, parce que ça vient aussi de mon passif de personnages qui se ressemblaient bien trop. Et puis aussi d'un reproche qu'on avait eu. Savoir que les personnages étaient un peu trop inexistants, enfin les gens avaient du mal à s'y attacher, et là on s'est dit ok, pour cette future série ce sera les personnages qui passeront devant l'univers et le concept de la série, c'est à dire que on veut que les gens s'y attachent. De fait, il faut les travailler énormément, tant psychologiquement, là c'est le travail de Vincent, que physiquement, sachant que même si je suis parti sur des archétypes physiques, On veut justement que les personnages soient bien plus profonds que ça, en les découvrant au fil des épisodes.
L'idée est de faire une caricature, aussi bien psychologique que physique, dès le départ. Fixé, voilà, on a le gros barbare, on a le machin, on a le... Et c'est par la suite, de toute façon, quand on rencontre quelqu'un, on a tout de suite ses caractères physiques principaux qui nous mettent à la face, et on se dit, ah oui, d'accord, lui il est comme ça, lui comme ça. Et c'est en connaissant les gens peu à peu qu'on finit par comprendre que c'est en nuance, et que c'est pas un tout, que c'est pas non plus toujours fixe. Mais c'est pareil, on va avoir 3 saisons pour connaître les personnages. Bah, au départ on a des grosses caricatures, et à la fin on saura vraiment ce qu'il en est. Voilà.
Bah, justement, qu'est-ce que ça raconte Chaos Team ?
Chaos Team, c'est de l'anticipation. Les extraterrestres sont arrivés sur Terre et pendant 6 mois ils ont ravagé un peu tout. Et puis au bout de 6 mois ils se calment et ils font plus rien. Alors il y a une raison à ça bien sûr, mais ils sont soit en orbite dans leur station, soit au contraire leur station plongée sous l'eau, au fond de l'eau vraiment. Et donc ils sont un peu disparus. Et les humains commencent à ressortir de leur trou, de leur cachette, des ruines de leur société. Et en absence d'ennemis communs, au lieu d'avoir un John Connor qui se défend contre les robots, bah là on a 15 John Connor qui décident que le monde c'est eux qui vont le remettre sur pied, et donc ils vont décider de se battre entre eux. Donc c'est vrai qu'en Europe par exemple on a une espèce de renouveau de l'extrémisme catholique et protestant, au Moyen-Orient c'est l'islamisme qui remonte, en Amérique latine c'est les cartels mexicains qui ont pris le pouvoir face au gouvernement, voilà. On a tous toutes ces factions qui commencent à se battre un peu partout. Et parmi ce monde-là, on a une entreprise de mercenaires qui a tiré son épingle du jeu durant la guerre contre les extraterrestres, qui a racheté pas mal de choses à l'armée américaine, aux armées européennes, qui s'est permis de pouvoir recréer du matériel militaire. Et là, elle joue la carte du mercenaire, pur et dur, en vendant des armes, en vendant de l'équipement et des gens aux factions qui le désirent et qui peuvent obtenir... pas contre de l'argent, l'argent n'a plus vraiment cours, mais contre des matières premières, contre des esclaves, contre des produits, voilà. Donc on a une entreprise de mercenaires, et au sein de cette entreprise de mercenaires, la Chaos Team, c'est le groupe le plus coté, le groupe qui de garde du corps de toutes les missions, qui vivent très chichement, qui ont encore des magnétoscopes, des DBD, des choses comme ça, l'électricité, l'eau courante, dans un monde où la plupart des gens vivent très pauvrement, ou travaillent dans des usines, chez Blackfire notamment, travaillent dans des usines presque à en mourir. Et ce groupe-là profite justement de son statut pour pouvoir vivre correctement, et va devoir notamment sauvegarder la vie d'un des clients de Blackfire, qui est un chef sanguinaire et brutal de cartel mexicain. Et là, à partir de ce moment-là, nos chers mercenaires vont commencer à se poser des questions sur ce qu'ils font, et s'ils ont une conscience ou s'ils n'en ont pas. Et donc là, j'ai envie de dire, il faudra lire le bouquin pour savoir s'ils en ont une ou pas. Voilà.
Le coup des envahisseurs qui disparaissent d'un coup sans qu'on sache pourquoi, ça me fait penser un petit peu à Babylon 5. Je sais pas si tu connais.
Babylon 5, non. Je le note de nom, mais alors l'histoire, non. Mais ils disparaissent, mais ils sont encore là. Et ils reviendront parce que il y a une explication pour laquelle ils disparaissent. Il y a aussi l'explication des 6 mois, il y a aussi tout ça. Donc ça, on saura au fur et à mesure. Le but des extraterrestres, c'était un peu de donner une raison pour que le monde soit exacerbé, que les tensions qu'on connaît un peu actuellement soient aller vraiment encore une caricature finalement, aller jusqu'au bout. Donc l'idée est de parler de certains problèmes qu'on connaît actuellement aujourd'hui, mais en allant vraiment à fond, parce que le mercenariat est un problème qu'on connaît, les cartels mexicains est un gros problème que l'on connaît aussi, et voilà, diverses choses comme ceci.
Les extrémismes aussi.
Voilà, bien sûr.
Au niveau du format de publication, tu m'as parlé d'un modèle un peu original.
Oui, alors là on veut vraiment revenir à quelque chose d'un peu de feuilletonesque. C'est une série où on veut suivre des personnages, donc c'est un peu le but. Donc en gros, on va nous produire ça sous forme d'épisodes, de 22 pages, comme à la format comics. Bien sûr, la publication papier, elle, ça sera une réunion. Enfin, on va réunir 5 épisodes dans chaque tome. Donc ça aura un format d'environ 120 pages en format comics, donc un peu la moitié d'un bloc 109 finalement. Et sur ces 5 épisodes, 3 d'entre eux seront publiés intégralement et gratuitement sur Internet via notre site 3 mois avant. C'est-à-dire que le premier livre sortira en janvier 2013. Donc en octobre 2012, on aura les premiers épisodes de Chaos Team disponibles sur Internet. En novembre le deuxième, et en décembre le troisième, et en janvier on a les 3 épisodes plus le 4 et le 5 inédits finalement qui sortent en livre à Angoulême, notamment à l'occasion d'Angoulême 2013.
Tu prévois un mode de publication particulier ou sera juste du PDF? Tu prévois un enrichissement, des applications pour les smartphones, etc.
Alors, ça sera plus application avec un modèle de lecture. Ce sera pas PDF, ce sera pas téléchargeable, ça sera lisible en ligne. Voilà. Avec un
lecteur type en fait. Moi, j'ai mis en place un site internet qui s'appellera label20watt.com qui sera lancé et qui sera consultable dès octobre prochain, évidemment. Et dessus, il y aura juste un lecteur type DigiBT. Mais en fait, c'est l'opérateur que j'utilise s'appelle Calameo. Et c'est un lecteur qui s'adapte aux iPads et aux iPhones. C'est-à-dire que les gens peuvent lire le document en ligne sans problème, en zoomant aussi. Ils peuvent feuilleter, ils peuvent zoomer, dézoomer. Enfin bref, c'est très très ludique. Mais on en restera à chaque publication juste à l'épisode justement, car ce sera dans le bouquin où on fournira à la fin des 120 pages des 5 épisodes un gros bonus d'une petite vingtaine de pages avec des designs, des choses comme ça, des explications sur l'univers, des fausses coupures de journaux, etc. Là il y aura un vrai enrichissement pour vraiment donner un caractère unique au bouquin et que les gens se disent bah oui c'est vraiment le bouquin la finalité, c'est vraiment faire ça qu'il faut aller et non pas rester sur internet. Voilà, l'internet est là pour faire connaître le Chaos Team,
créer le côté un peu feuilleton, c'est-à-dire que on a un peu sa petite lecture tous les mois pendant 3 mois et c'est quelque chose, enfin voilà, le livre va être un espèce d'événement pendant 4 mois au lieu de pendant 2 semaines.
Ce qu'on veut aussi, c'est passer au-delà du feuilletage qui généralement peut tuer un livre en librairie, c'est-à-dire que les gens vont juger un livre essentiellement sur le dessin, s'il leur plaît ou non, ou si l'ambiance leur plaît. Là on veut que les gens accrochent à l'histoire. Et même si je n'ai aucun doute pour mon dessin, évidemment, là on veut que les gens avant tout accrochent à l'histoire, accrochent au personnage et qu'ils n'aient aucun doute quand ils aient lu ces 3 premiers épisodes qui sont encore une fois gratuits. Voilà. Et sachant que la Fnac.com relaiera à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode sur notre site.
Ok. Quel est votre dernier coup de cœur en bande dessinée, Vincent?
À Targoul, pour moi. Ouais. J'apprécie beaucoup le travail de Fabien Nury et encore plus au niveau dessin le travail de Bruno. Donc là j'ai envie de dire tercé gagnant. Donc voilà, vraiment ouais, c'est ça.
Renan?
Pour moi c'est Quai d'Orsay. Vraiment, c'est le mouvement, le dessin de Blin. Tout. Je me suis laissé emporter. J'ai adoré.
C'est marrant, en vous entendant parler de vos influences, j'aurais plus cru que vous auriez peut-être cité des comics. Vous trouvez plus votre bonheur dans les bandes dessinées américaines?
Moi, je trouve beaucoup plus mon bonheur dans les bandes dessinées américaines, hein, vraiment. Mais c'est ce que je lis le plus. Peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que quand je lis une BD franco-belge, bah, ça me saute aux yeux et que j'apprécie autant. Mais on est un peu éclectique.
C'est vrai qu'en comics, moi, j'aurais pu dire... mais. Quelque part ça date un peu parce que moi je me mets à lire plein de séries. Moi mon dernier coup de cœur, alors oui il y a Scalped, mais il y a aussi I le dernier homme. I le dernier homme c'est plutôt vieux, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Et là je suis en train de faire 100 Bullets, c'est pareil, c'est bien écrit que bon. Enfin,
j'ai les mêmes références bien sûr. Scalped est pour moi une grosse découverte, mais c'est vrai que je trouve ça déjà un peu vieux quoi. J'essaie de trouver un peu quelque chose de neuf. Mais oui, bien sûr, c'est des choses qui nous portent et sur lesquelles qui donnent beaucoup d'idées. Ouais, vraiment. C'est là-dessus qu'on va piocher nos références, plus que dans la BD franco-belge, bizarrement. Ouais, c'est sûr.
Bien, merci Vincent.
Merci beaucoup aussi à toi.
Et merci Renan.
Eh oui, merci à toi.
Mais c'est qu'ils ont été longs les bougres, heureusement que ce qu'ils avaient à dire était intéressant. Je recours vers la bulle New York pour retourner voir les indés, mais je sens qu'on approche de la fin, les résultats ont déjà été annoncés. J'en ai entendu quelques-uns, mais c'est un peu difficile avec le brouhaha et l'ambiance dans tous les sens, malgré les haut-parleurs qu'il y a dans toute la ville. J'arrive aux indés, j'essaye d'en discuter avec quelques-uns, et là, je manque pas mal de temps quand même. Je suis avec Jean-Baptiste Bazin, un des membres fondateurs de Dédale Édition, qui édite un fanzine dont le premier numéro, au niveau du thème, était sur le labyrinthe. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Alors, quelle est l'origine de ce fanzine et pourquoi l'avoir lancé?
On a commencé ce fanzine parce qu'on était tous à l'ESI, qui est l'école européenne supérieure de l'image. On s'est tous réunis à la sortie des Beaux-Arts et on s'était dit qu'on avait envie de commencer à faire notre propre livre, à être indépendant. Donc on a commencé à se mettre d'accord sur un thème, sur un magazine. Le parti pris étant de vouloir faire un beau livre, quelque chose qui était un bel objet, à la fois en édition papier et également en édition numérique. Donc on a le livre qui sort une fois par an sur un thème choisi, et le site internet dédaleédition.com qui, lui, est une plateforme numérique où il y a de la bande dessinée online toute l'année.
Au niveau de la contrainte, vous êtes tous mis d'accord pour trouver quelque chose de plus ouvert possible, et vous êtes vraiment que des étudiants de l'ESI ou vous vous ouvrez à d'autres venues ?
Actuellement, on a commencé avec... on est à 8 sur le premier numéro, donc on est des anciens de l'ESI, des amis pour la plupart, on se connaît bien. On est ouvert maintenant, on est 12-13 pour le numéro 2 qui va sortir courant 2012, qui sera sur les masques. Et puis le festival oblige, on a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers, des Suédois, des Sud-Africains, des Espagnols qui sont intéressés par le projet. Donc on leur a laissé l'adresse mail, le contact, ils vont entrer en contact avec nous, ils vont nous envoyer des planches. Nous on demande à travailler justement avec des gens motivés, des gens talentueux pour justement pouvoir faire quelque chose de riche et d'assez éclectique.
Ok, monter un fanzine, c'est pour vous faire connaître, parce que j'imagine qu'à un moment vous aimeriez bien vivre de votre travail, de la bande dessinée. Monter le fanzine, c'était pour vous faire connaître et vous donner peut-être d'autres opportunités, ou juste pour le plaisir du livre ?
En fait, on est plus sur le rapport à la revue ou au livre d'art que le fanzine. Donc c'était à la fois être autonome, pouvoir faire le livre qu'on avait envie de faire ensemble. Bien sûr, se faire connaître, parce que c'est une super carte de visite d'avoir un beau livre bien réalisé avec des œuvres qu'on apprécie, dont on est fier. Maintenant, on n'a pas les mêmes contraintes qu'on si on était chez un éditeur qui veut nous demander peut-être des histoires plus longues ou un autre rapport à l'édition. Donc c'est une liberté, c'est quelques contraintes finalement, parce qu'on doit se gérer nous-mêmes. Mais pour l'instant, c'est plutôt travailler ensemble et voir aussi, nous, la prétention qu'on a, c'est d'être une maison d'édition. Donc pour l'instant, on édite une revue qui est un recueil de travaux autour d'un thème. À partir de 2012-2013, on envisage quand même d'éditer des auteurs membres de l'association ou des nouveaux, des gens qu'on apprécie, des petites histoires d'une trentaine de pages, mais ça va venir petit à petit.
C'était important, la présence sur Angoulême, et c'était pas trop compliqué de réussir à être présent ?
C'est important, oui, c'est essentiel pour commencer. Nous, on a de la chance d'être situé en Charente, à Angoulême, donc on peut être en partenaire avec Magellis. D'ailleurs, je remercie le pôle Magellis pour nous avoir aidés. C'est eux qui nous ont donné le stand au FIBD. Maintenant, il y a beaucoup d'autres festivals, il y a beaucoup d'autres, pas juste en France d'ailleurs, on a beaucoup en Angleterre, en Suède, en Finlande. C'est quelque chose de très dynamique. À nous maintenant de nous déplacer, de faire connaître le livre. Les petites structures comme ça, s'il y en a beaucoup, donc il faut essayer d'être le plus dynamique possible.
Ok, ton dernier coup de cœur en BD, c'est quoi ?
Mon dernier coup de cœur en BD, alors je l'ai là quelque part, j'ai acheté, enfin c'est pas nouveau, j'ai acheté Big Man de Mazzucchelli. Donc c'est pas tout nouveau, ça fait quelques années que c'est sorti, mais je sais pas, je l'avais pas vraiment lu avant, je l'avais pas vraiment regardé. Encore une fois, Mazzucchelli est le meilleur. Au niveau de tout ce qui est narration, la liberté du trait, c'est incroyable. Voilà. Enfin, moi, je me retrouve vraiment beaucoup là-dedans.
Merci, et puis peut-être à l'an prochain sur le festival.
J'espère. On sera là normalement, on ne devrait pas avoir de soucis pour le deuxième livre, mais à bientôt, j'espère.
Donc, je suis sur un stand, je cherche, c'est lequel côté ? Polystyrène. C'est un conseiller de Jean-Louis, il m'a dit, il faut que tu ailles les voir, ils sont géniaux. C'est bien, mais en fait, j'ai même pas eu le temps de voir ce que vous faites. Vous êtes qui ?
Alors, on est une toute jeune maison d'édition, en fait. Ça va être un peu compliqué comme ça, je vais essayer de le faire, parce que, en fait, on fait des livres un peu particuliers. On fait pas des livres où les pages se tournent les unes après les autres, mais on fait des livres un peu différents, par exemple un livre troué, un livre affiche qui se déplie au fur et à mesure de la lecture, ou un livre comme notre dernière sortie qui s'appelle Evitost, où les pages sont pas reliées et on peut les mélanger pour à chaque fois faire une nouvelle histoire.
Vous avez bouffé du Scott McCloud pendant votre jeunesse, c'est ça ?
Ouais. En gros, ouais, on aime bien quand même Scott McCloud, effectivement, je pense qu'ici, on l'a tous lu, mais on est aussi bercé par l'association Elou Bapo, et puis même on est, enfin, disons qu'on a des références assez larges, quoi, enfin, voilà, c'est, voilà.
Vous existez depuis combien de temps ?
Depuis à peu près un an et un mois, quoi. Enfin, voilà, c'est notre premier festival sur Angoulême et ça marche plutôt bien, on est plutôt contents, donc voilà.
Et où est-ce qu'on peut trouver ça?
Alors, on peut trouver ça sur le site internet de l'association. Donc, c'est edition.polystyrène.free.fr. Et polystyrène, c'est P-O-L-Y-S-T-Y-R-E-N-E. Voilà.
Ok, la question que je pose à tout le monde, parce que tu vas pas y échapper, c'est quoi ton dernier coup de cœur en BD? Et déjà, comment tu t'appelles? Tu m'as même pas dit, tu vois. Bravo. Hein?
Alors, moi, c'est Ludovic Rio, et mon dernier coup de cœur en BD, je sais pas, j'ai pris... Bah, je sais pas, là, disons que je viens de voir pas mal de choses sur les stands que j'ai pas forcément encore lues. Mais sinon, j'ai lu dernièrement une super BD d'un tout petit auteur qui est vraiment pas très connu. Ça s'appelle Ce que tu veux, je crois. C'est ça, d'Étienne Aubry. Et c'est un étudiant d'Épinal et c'est super BD. Donc voilà.
Bah, merci beaucoup.
De rien.
Et voilà, on arrive en bout de festival, tout le monde était en train de ranger dans tous les sens, et les résultats. Alors, le Grand Prix, c'est Jean-Claude Denis, que je connais vaguement parce que j'avais croisé il y a plus de 10 ans maintenant un festival, festival à Bastia, il a créé Luc Leroy. Je connais pas du tout son œuvre, bah, je pense que j'ai un an pour essayer de m'y intéresser un minimum. Au niveau des prix, bah, moi j'ai été plutôt surpris parce que mes favoris n'ont pas forcément gagné, ou bien alors dans des catégories auxquelles je ne m'attendais pas forcément. En tout cas, c'est quelque chose de très varié qui donne sa part belle aux indépendants, et ce qui est plutôt pas mal parce que ça le fait sans être élitiste, ça reste des titres assez abordables. On commence par le prix BD Fnac, le prix des libraires qui a été remis à Portugal, qui est un chef-d'œuvre dont vous avez déjà parlé. Il y a eu un Fauve Polar pour Intrus à l'étrange de Simon Hureau chez La Boîte à Bulles. J'étais là quand ils l'ont annoncé sur le stand de La Boîte à Bulles. Il y a eu des applaudissements, ils étaient très très contents et je l'étais assez pour eux. Il y a aussi eu un prix spécial du jury, une mention spéciale du jury pour La Photo Chinoise de François Ravard et Aurélien Ducoudray chez Futuropolis. Ensuite, le Fauve Patrimoine, qui récompense une réédition de quelque chose d'important pour l'histoire de la BD. C'est pour La Dynastie Donald Duck, l'intégrale de Karl Barks, aux éditions Glénat. Alors, paraît que l'édition n'est pas fantastique par rapport à l'édition américaine, mais en tout cas, le fait de pouvoir lire ces histoires originales de Karl Barks, c'est quand même une bonne chose. Le prix Révélation, mon chouchou, c'était Aurélien Maury, c'est pas lui qui a gagné. C'est TMLP, Ta mère la pute, de Gilles Rochier, aux éditions 6 pieds sous terre, dont j'ai entendu beaucoup de bien dans une tonne de podcasts, mais que j'ai pas eu le temps de lire, ni l'occasion. Pour le prix de l'audace, par contre, ça m'a beaucoup fait plaisir de voir que les requins marteaux étaient récompensés avec leur connexion BDQ et Teddy Beat de Morgane Navarro, qui apparemment est quelque chose de très rigolo, très sympa, et dont tout le monde m'a dit le plus grand bien, au-delà du fait que ce soit une histoire de cul. Le prix Regard sur le monde, bah, je l'attendais plutôt sur le prix Intergénération. Ça a été pour Une vie dans les marges de Yoshihiro Tatsumi, édition Cornelius. On a adoré. Moi, j'ai trouvé ça génial. On vous en a déjà grandement parlé. Je vous ai parlé du film aussi et c'était vraiment mérité. Le prix Intergénération, justement, lui a été remis à Bride Stories de Karu Mori, édition Kiyun. Un manga qui me faisait beaucoup d'œil parce que beaucoup de personnes m'en ont parlé et Rémi de chez Bodeuil m'a dit qu'il fallait absolument lire ça et c'est pas le seul. La série s'est attribuée à Cité 14 de Pierre Gabu et Romuald Rettiman aux Humanoïdes Associés. Alors c'est un projet assez original de série. À l'origine, ça devait être plein de petits tomes format un peu comics à 1€. C'était chez un autre éditeur, puis ça a été repris chez les Humanos. Pareil, c'est une très très bonne série, de la même façon, j'ai pas eu l'occasion d'en lire. On continue avec le Fauve, prix spécial du jury pour Franck et le Congrès des Bêtes de Jim Woodring à l'association. Je connais très mal Woodring, j'avais vu quelques-uns de ses dessins, je trouve son style assez rigolo, assez sympa, et il semble que Art Spiegelman est assez fan, ce qui explique petit ça. Et enfin, le Fauve d'or, le meilleur album de 2012, c'est pour Guy Delisle avec ses Chroniques de Jérusalem chez Delcourt, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, moi, j'adore Guy Delisle, c'est vraiment mérité, c'est un très très bon bouquin. J'espère que, en tout cas, cette sélection, ce palmarès vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous auriez aimé voir d'autres choses mises en avant, faites-le nous savoir, on en discutera. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne du podcast. Je ne sais pas si je referai ça l'an prochain, ça risque d'être un peu difficile, je risque d'être coincé dans le caca et les couches. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un très agréable moment. J'ai fait plein de rencontres. J'ai raté plein de rencontres. J'ai eu le temps de faire que le quart de ce que je voulais. J'ai pas rencontré de toutes les personnes que je voulais. J'ai fait quasiment aucune expo. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes vraiment géniales. Beaucoup de journalistes BD, un peu comme moi, de blogueurs, de... Beaucoup d'auteurs qui ont été tous très sympathiques, très agréables et très accessibles. Je regrette d'avoir raté un peu l'autre partie de l'équipe de Comic City, même si Jean-Lô les a très très bien représentés. Et puis bah, je vous donne rendez-vous le 10 février, je pense. Ce sera la prochaine fois que vous pourrez m'écouter pour le Synops Bubble Show avec BTO qui nous guidera là-dessus. Et puis... On se retrouve très bientôt, même si ça risque de ne pas être tout de suite, car j'ai une pile de BD à lire. Ciao, ciao !